10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est l'islam au présent, alors au présent tous les samedis en direct de 10h à 11h et nous avons le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec toi pour une énième mission, Inch'Allah.
Ouais, et comme vous ne me trouvez pas frais ce matin, vous avez trouvé un sujet pour moi. On va parler de l'héritage.
Oui, on va parler de dons et de legs.
Je ne vous ai pas encore mis sur mon testament, Imam Abdelali.
J'espère bien.
Je mettrai un petit truc pour vous. Je sais que tu as combien de maisons secondaires en fait?
Secondaire, tertiaire, quadricière,
ouais.
Cinquossière, c'est ça?
C'est du mamounade, mais dans l'esprit on comprend ce que vous voulez dire.
Qui sert à rien dans l'eau.
Je vous mettrai un truc.
Une ruine là qui traîne, je sais pas, en Bretagne ou au bord de la mer, là, il y a pas un truc.
Oh, la Bretagne, je vous le donne. Bon, alors on rigole avec ce sujet, mais c'est un sujet qui est quand même très très sensible et on sait que ça peut quand même fâcher. Et mettre la discorde dans les familles.
Entre les frères et sœurs, entre les parents, des gens qui soi-disant s'aiment bien,
alors là, c'est fini. Ouais. Une fois qu'on commence à parler de dons, de legs, d'héritage, c'est fini.
Ouais, et c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est vrai.
Bon, alors, face au droit français, hein, finalement, Imam Abdelali, qui impose un partage du leg qui est différent de celui qu'on retrouve dans le Coran, et c'est vrai qu'on a de nombreuses questions sur le sujet. Comment un citoyen de confession musulmane peut-il concilier les deux lois? Comment on fait?
Alors, c'est vrai que toutes les lois relatives, ou du moins toutes les règles juridiques relatives à l'héritage ne sont pas les mêmes entre ceux qui sont définis dans le droit positif français, dans le droit notarial, et celui que l'on trouve dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien sûr, il y a aussi des lois qui sont compatibles. C'est-à-dire, on a par exemple le fait que ce sont d'abord les enfants qui héritent. Ça aussi, le Coran l'accorde de manière très significative. C'est normal que ça soit les descendants du défunt qui soient les plus gros héritiers de la plus grosse part d'héritage que lèguent les parents. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est
normal par rapport au dernier conjoint. Par exemple, si quelqu'un a partagé votre vie pendant 25 ans, quand même, c'est
oui.
Ça devrait être au moins sous le même plan. Hein.
Alors, qu'est-ce que dit la loi? La loi dit que la loi française,
ouais.
Que une personne va, une épouse ou un époux va hériter d'un quart, ou bien un droit d'usufruit du bien immobilier jusqu'à sa mort. Soit on vend le bien et elle récupère un quart, elle prend un quart et les trois quarts reviennent aux enfants, ou soit elle garde la maison, par exemple si c'est un bien immobilier, elle garde la maison jusqu'à sa mort. Elle a un droit d'usufruit. L'islam lui accorde que seulement un an, un délai d'un an. Elle peut rester dans la maison pendant un an. Personne peut la chasser de la maison pendant un an. Après un an, bien sûr, les enfants doivent bien sûr entretenir leur mère. Ils peuvent pas l'acheter à la rue. On lui disait, maman, tu prends ta part, et qui est en islam de un huitième, et non pas un quart. Et l'islam ne va même pas accorder la moitié d'un quart à la mère. Bien entendu, ça c'est si le mari il a des enfants. Mais si le mari n'a pas d'enfants et qui lègue à sa femme un héritage, elle a le droit à un quart. Le Coran lui accorde un quart. وَلَهُنَّ الرُّبُعْ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٍ. Elles ont droit à un quart de votre héritage. Si vous n'avez pas d'enfant, dit le Coran.
Où est-ce qu'on trouve, Imam Abdelali, les versets donc, qui sont relatifs à l'héritage dans le Coran?
Alors, essentiellement, on les trouve dans Sourat An-Nisa, la Sourat les femmes, à partir du verset 7 et jusqu'à, on va dire, essentiellement jusqu'au 14e verset. Ensuite, il y a une reprise au niveau du verset 34. Et puis enfin, le tout dernier verset du Coran, qui donc évoque lui aussi. Qui évoque l'héritage. Donc à partir de là, et notamment ce qu'on appelle ayatul kalala, c'est-à-dire la situation où une personne décède et n'a que des frères et sœurs, il n'a pas d'enfants. C'est-à-dire c'est un héritage horizontal et non pas vertical. Comment se passe l'héritage horizontal, sachant qu'il y a des ascendants. Il y a les parents, le père et la mère. Et le défunt n'a pas d'enfant, il n'a que des frères et sœurs. Comment se passe l'héritage dans ce cas-là? Eh bien là, c'est le dernier verset 174, je crois, de Sourate An-Nisa, qui évoque cette question-là. Donc c'est vraiment la Sourate An-Nisa, la Sourate les femmes, qui évoque, bien entendu, la plus grosse partie des règles de l'héritage selon le Coran. Alors, il est important de savoir que, puisque d'abord il faut répondre à la première question, Philippe, si tu permets, concernant le fait de concilier la loi française et la loi coranique. C'est tout simplement d'abord de laisser faire la loi notariale, c'est-à-dire la loi française. Mmh. On laisse faire. On dit voilà, monsieur le notaire, voilà, tac, 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 procédez à votre héritage. Ensuite, les héritiers doivent se réunir autour d'une table avec un imam, avec un expert, pour remettre les pendules à l'heure et de dire voilà, en principe, toi, tu dois hériter de temps, c'est-à-dire ta part d'héritage, elle est de temps. Et donc, à partir de là, selon l'estimation, tu as le droit à temps. Et là, le notaire, il t'a accordé temps. Donc, toi, t'as un surplus, mmh. ou au contraire, tu as été lésé, c'est-à-dire on t'a donné moins que ce que tu devais prendre. Donc, on va redistribuer par une démarche fondée sur la conscience religieuse. Je parle là de conscience religieuse et non pas de droit positif, de droit, on va dire, exécutif qui s'applique, qui est la loi française. Donc, je répète que les membres de la famille, motivés par leur conscience religieuse, doivent s'asseoir autour de la table et rediscuter de l'héritage de leur défunt, de leur personne qui est décédée. Ça, par exemple, si c'est un père ou une mère, eh bien, ils doivent revoir la copie. Comment doit-on procéder pour faire en sorte de s'assurer que l'héritage se fait selon, conformément aux préceptes du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, on a à la fois respecté la loi française, dans un premier temps, on ne va pas s'opposer aux décisions légales, mais ensuite on se réunit pour corriger cette décision notariale, motivée bien entendu par une conscience religieuse qui impose à chacun de se soumettre aux règles coraniques. Et à chacun bien sûr de vouloir le faire ou pas. Hein. Maintenant, si la personne ne le fait pas, c'est en son âme et conscience, elle se dit, elle doit bien entendu se dire que je suis tout simplement quelqu'un qui a spolié, qui a volé les membres de sa propre famille. C'est-à-dire, si moi j'ai pris une part supérieure parce que le notaire il m'a donné plus que ce que je devais et qui est donc une part supérieure à ce que le Coran m'aurait donné, eh bien il faut qu'il se dise au fond de lui-même qu'il a tout simplement volé les membres de sa famille. Si par exemple, je donne un exemple, l'héritage n'accorde rien à mes grands-parents, c'est-à-dire mon père est décédé et mes grands-parents sont vivants. Mes grands-parents, qui sont les parents du défunt, ont droit à chacun un sixième, c'est-à-dire un tiers de l'héritage. Mon père et ma mère héritent d'un tiers. Le droit positif français ne va rien leur donner. Il va leur dire non, les ascendants, ils prennent rien du tout. Ce sont les descendants et l'épouse. Hein, les descendants, c'est-à-dire les enfants qui héritent, et les ascendants, eux, n'héritent rien. L'enfant...
Donc, le droit français leur donne rien.
Leur donne rien, donc il ne va rien leur donner. Mais toi, avec ta conscience religieuse, tu vas devoir t'imposer de leur restituer un tiers de la totalité de l'héritage. Si vous êtes plusieurs, c'est pareil. Donc, toi, au prorata de ce que toi, tu as reçu, tu devras restituer un tiers de ce que tu as touché en trop à tes grands-parents, c'est-à-dire aux parents de ton père décédé, ou à ta mère décédée, bien sûr. On parle des grands-parents, puisque moi, le petit-fils, j'hérite de mon père, et mon grand-père hérite de son fils. Donc, mmh. mon grand-père mmh. hérite, lui, de son fils décédé avant lui, et le Coran lui accorde un sixième, et ma grand-mère, un sixième. Donc, ça fait deux sixièmes égale un tiers. Donc, chacun, il a droit à un sixième. Donc, un sixième, les deux, ça fait un tiers. Ce tiers-là, qui est le droit de mes grands-parents, si je ne leur accorde pas, j'aurais bien entendu volé mes grands-parents. Ma conscience religieuse me dira, tu as spolié et volé l'argent de tes grands-parents. Et en plus, tu auras procédé à un grand péché en islam qu'on appelle qati'at ar-rahim, c'est-à-dire rompre les liens familiaux avec les proches. Puisque lui, il sera en droit de te rompre les liens avec toi, alors que ton grand-père, tu dois non seulement en plus de consolider des liens de parenté, puisque c'est ton grand-père, que s'il n'était pas là, tu n'existerais pas. Puisque ton père lui-même n'existerait pas, donc il y a un droit. Ton grand-père, il a un droit sur chacun de ses descendants et de ses petits descendants, ses enfants et de ses petits enfants. Donc les petits enfants qui auront pris une part supérieure à ce qu'il leur est dû, parce que le notaire leur a accordé, eh bien ils devront restituer cette part à leurs grands-parents et halouma jarra, c'est-à-dire et ainsi de suite sur toutes les décisions prises par le notaire qui seront elles différentes à ce que le Coran accorde aux héritiers.
Et là, dans ces cas-là, je vous dis toujours, bon, ça c'est bien joli, Imam Abdelali, mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Est-ce que vous, qui êtes souvent sollicité pour ce genre de calculs et de questions, est-ce que vous voyez vraiment que les gens restituent l'argent aux grands-parents ou aux personnes qui ont été spoliées?
Alors, je voudrais quand même rappeler le verset 7 de la sourate 4, c'est important. Hein. Dieu, dans le Coran, il dit « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches. Mmh. Et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches. Que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. » Donc, les rijal inasib ma taraka al-walidin al-aqrabun mimma qalla minhu au kathur wa linisa inasib ma taraka al-walidin al-aqrabun kitaban mafrouda. Donc, ce qu'on appelle le terme mafrouda. D'où reviendra le terme farida, faraid, faraid, ça veut dire obligation. Mmh. Le terme obligation, c'est donc une obligation pour chacun d'entre nous de respecter ces règles-là. Je rappelle que voler un étranger, c'est déjà moche, c'est déjà pas beau, c'est déjà péché, c'est déjà turpitude, c'est déjà égarement, c'est déjà voilà un bien mal acquis. Hein, comme dit le français, ne profite jamais.
Bien mal acquis.
Ne profite jamais. Et en tout cas. C'est tout simplement en arabe on dit sariqa, sirq. C'est déjà tu voles un étranger,
c'est comme scélérat.
Voilà, il vole. Il a volé. Mais là tu voles un proche, c'est encore pire. C'est celui que tu dois fréquenter, que tu dois inviter à la maison, que tu dois faire preuve de générosité, de gentillesse, de bienséance, de bienfaisance, de bonté pieuse, tout ça de birr, hein, cela c'est à eux que tu commets un tort et tu spolies leur argent sous prétexte que il y a des coutumes, des usages qui se font. Par exemple, je vais donner un exemple. Hein, dans certains pays du Maghreb, ou même en Afrique, hein, en Afrique subsaharienne, ce sont les hommes qui héritent de tout. Les sœurs, elles se la bouclent, elles ferment leur bouche, elles n'ont rien à dire. Et je suis poli, parce que ce n'est pas ces mots-là qu'ils utilisent. Le gars, il va dire à sa sœur, ferme ta bouche. Toi, tu es marié, tu toucheras l'héritage de ton mari. Puis que lui-même, lui va hériter de ses parents. Oui, mais le Coran ne dit pas ça. Il le dit, je viens de le citer, le verset. « Et aux femmes, dit le verset du Coran, et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. » Donc on ne peut pas dire non, l'héritage, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes. Il y a aussi un autre truc qu'on retrouve dans l'autre sens, c'est les femmes qui disent « L'or de maman, c'est à nous. » Il y a les filles de la maman, qui vient et dit voilà Louisette, les sortes de pièces en les louis d'or là que ouais. qu'elle lègue, les bracelets,
les ceintures
et tout ça. Elle dit que ça c'est un héritage de notre mère pour nous les filles. Les garçons n'y ont pas droit. Eh bien là encore nous disons stop, non, vous pouvez pas faire ça. Donc on a l'impression que il y a déjà un partage qui est fait dans les coutumes, c'est que tout l'or légué par la mère, eh bien c'est pour les filles, et tous les biens immobiliers,
les terres,
ça appartient aux garçons. C'est bien entendu totalement faux. Il y a bien entendu toute une procédure que l'on doit respecter pour respecter les règles du Coran concernant l'héritage.
Bon, vous n'avez pas répondu à ma question.
Oui.
J'ai donc dans la vraie vie. Est-ce que ça se passe vraiment comme vous êtes en train de nous raconter? C'est-à-dire que ceux qui ont trop pris, parce que c'est le notaire qui leur a donné, ils remboursent à ceux qui n'ont pas eu?
Non, ils remboursent pas.
C'est quand même rare.
Il y a plusieurs choses qui se passent. Vous avez, soit ce sont des biens qui sont en Algérie, donc là-bas, c'est un peu le désordre. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est en Algérie, par exemple, il y a un problème? C'est comme l'État n'a pas de droit d'héritage, ne prend pas d'impôt, de taxe sur l'héritage, elle ne se mêle pas de l'héritage des citoyens. C'est-à-dire, elle dit, débrouillez-vous. Et qu'est-ce qui se passe, Philippe, derrière? C'est que tu as des terres et des biens, des maisons, etc., qui sont partagées entre les garçons, et les femmes sont lésées et sont mises de côté, et personne ne peut rien faire que seulement entamer une procédure judiciaire. Bien entendu, entamer une procédure judiciaire, il s'agit d'aller avec un avocat chez un juge, porter plainte contre son propre frère. T'imagines? Alors, chez nous, au Maghreb, c'est une honte de faire ça. Une femme qui fait ça à son frère, même si elle récupère le bien, même si elle obtient gain de cause, et encore, parce qu'il y a la décision de justice et après l'application du jugement, c'est encore deux choses. Parce que pour que la femme ensuite réussisse à récupérer le bien, un bien, ça reste quelque chose de figé. Parce que souvent, par exemple, parce que le frère lui aussi l'hérite, qu'est-ce qui va se passer? Il va, ce qu'on appelle, avoir une expertise. On va expertiser un terrain. Je donne un exemple, un terrain, un immense terrain qui appartient à grand-père. Grand-père, il meurt. du moins papa y meurt et les enfants héritent. D'accord ? Les sœurs, on les met de côté, elles portent plainte, elles récupèrent une part de l'héritage. Comment ça se passe ? Eh bien, on va désigner un expert qui va d'abord évaluer, définir exactement les métrages. Parce que souvent, déjà ça, c'est un peu désordre. Hein. Le cadastre, il n'est pas au top hein, là-dessus. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'artrab. On appelle ça d'artrab. Le cadastre algérien est catastrophique en la matière. Il y a beaucoup de fraude dans ce domaine-là. Et donc, déjà, définir ce qui appartient aux défunts, c'est déjà compliqué. Ensuite, vous avez des parties, des parcelles du terrain qui sont plus nobles que d'autres. C'est bien. Celles qui sont en penchée, souvent, ce qu'ils vont faire, les garçons, ils vont léguer aux sœurs. S'ils veulent quelque chose, ils vont leur donner les terrains qui sont inutilisables, qui sont inappropriés à l'agriculture ou à la construction, ou qui sont pas constructibles. Et ils vont, bien sûr, s'accaparer les parts ou plus, les parcelles les plus nobles du terrain. Ça, c'est s'ils respectent le partage. Donc c'est tout un travail très compliqué où les procédures sont très longues où les gens vont dépenser beaucoup d'argent dans des procédures judiciaires à la fois coûteuses d'un point de vue financier mais aussi coûteuses d'un point de vue image qu'ils donnent dans le quartier tous les gens vont être au courant, t'as vu ça, la honte pour elle a porté plainte contre ses propres frères etc. Et ça part très loin, Philippe. Les gens, à la fin, qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, on en a rien à foutre. Je préfère garder mon lien de sang que de garder ma part de terrain que j'ai perdu à cause de mon frère.
Bon, on continue à en parler ce matin. Si vous avez des questions justement sur les legs, les dons, les héritages, vous pouvez les poser à l'imam Abdelali Mamoun. L'émission est en direct et vous composez le 01-53-48-3000. 01-53-48-3000, c'est l'islamo au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons d'héritage ce matin, des legs, des dons, des questions qui concernent l'héritage. Et vous posez vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000. On accueille Faïza qui est avec nous. Faïza, bonjour et bienvenue.
Saïda.
Bien. Saïda, vous êtes la bienvenue.
Merci.
L'heureuse, comme la ville de Saïda.
Je voulais vous dire, monsieur, il a dit, Choma, on ne peut pas attaquer nos frères au tribunal et tout. Si, il n'y a pas Choma.
Attendez, madame, j'ai pas dit qu'on ne devait pas le faire. Hein. J'ai pas dit ça, hein. Attention. J'ai dit que Philippe me posait la question de ce qui se passe sur le terrain. Donc moi, j'ai simplement dit ce qui se passe. J'ai pas dit que j'approuvais cette manière de faire. Attention, je n'approuve pas. Non, attendez que ce soit bien clair. Je suis pour que les femmes, pour que les garçons n'aient pas l'arrogance et l'impunité de faire ce qu'ils veulent. Je suis pour la plainte et le dépôt de plainte. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des sœurs qui vont se retrouver en porte-à-faux avec leurs frères. Ils ne pourront plus leur rendre visite. Ni recevoir leurs enfants, ni eux-mêmes envoyer leurs enfants chez leur oncle. Donc il y a ce qu'on appelle une rupture.
Relationnelle.
Oui, madame, je suis d'accord. Madame, j'ai compris.
Je vais vous dire, excusez-moi, parce que je vais vous dire, les frères qui trafiquent les papiers, hein, qui ignorent, qui veulent vendre la maison sans prévenir leur sœur. Vous trouvez ça normal ?
Alors, madame, oui, je vous réponds que c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, il faut aussi faire une chose. C'est que les femmes ne soient pas dans la crédulité, c'est-à-dire la naïveté, que dès que leur frère y vient, il leur fait signer une procuration générale, et eux, ils signent aveuglément. Il faut pas signer. Moi, j'interpelle toutes les femmes musulmanes qui ont droit à un héritage de leurs parents, qui, leur frère y vient, il leur dit signez-les la wakal al-amma. Hein, la procuration générale. Et lui, là-bas,
Moi, j'ai rien signé.
Attendez, je ne vous parle pas de vous, madame. On n'est pas dans un cas particulier. On parle de généralité, d'abord. D'accord?
De généralité. Oui, d'accord. Oui, j'ai compris.
Je vous dis, il ne faut surtout pas, c'est signer des délégations générales. Car avec cette délégation générale, la personne qui va aller devant le notaire, elle aura tous les pouvoirs, de votre décision. C'est-à-dire, elle pourra décider de mettre à son nom, à lui, tous les biens de son père. Et vous n'aurez rien du tout et vous irez pleurer les larmes pour essayer de récupérer quoi que ce soit de votre frère. Donc ne signez rien.
Moi, j'étais contre parce que mes frères, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti le foncier, alors ils n'avaient pas le droit. Si tous les héritiers ne signent pas, D'accord.
Ouais, mais le notaire, à ce moment-là, il faut porter plainte contre le notaire, puisque le notaire, normalement, doit respecter la procédure et il ne doit pas effectuer.
C'est le domaine, c'est le domaine, monsieur.
Les domaines publics.
Oui. Mais
domaine, ce qu'on appelle Amlak Daoula.
Voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont à voir Amlak Daoula? Si c'est Amlak Daoula, c'est Amlak Daoula. De quoi?
Mais c'est là-bas qu'ils ont sorti le foncier.
Attendez, vous parlez de documents de biens immobiliers donc qui n'est pas inscrit de manière notariale, c'est ça?
Oui. Voilà.
Donc là, vous voyez, encore un autre problème en Algérie, c'est quoi? C'est
tous, qu'il y a. Tous les biens ne sont pas inscrits
au niveau notarial et donc les gens sont obligés d'aller chez le cadastre, hein, ou ce qu'on appelle les domaines, Amlak Daoula, pour distinguer ce qui appartient à leurs grands-parents de manière à ce qu'il soit acté et ensuite quand il est acté, à ce moment-là, ils le revendent, etc., etc. Voilà. C'est compliqué. C'est vrai que les grands-parents, au moment de l'indépendance, n'ont pas tous acté leurs biens qu'ils ont récupérés du colon, puisque les colons, quand ils ont quitté l'Algérie, ils ont laissé des terrains. Eh bien, ce sont les anciens propriétaires, on va dire encore, il faut chercher, parce que depuis 132 ans que la France est en Algérie, il fallait prouver, et c'était compliqué pour eux. Et sans parler qu'il fallait qu'ils payent des taxes. Et beaucoup d'Algériens, ils refusaient tout simplement de payer ces taxes à l'État pour inscrire dans le cadastre leurs biens. Et après, il devient compliqué aux héritiers de procéder au partage et ils sont obligés de passer par les domaines, etc., pour avoir leurs droits.
Merci Saïda pour votre question. On a Najette avec nous au 01 53 48 3000. Bonjour Najette.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour.
Salam alaikum wa rahmatullah.
Salam alaikum. Cher, moi j'ai une question. Donc, moi j'ai un bien en Algérie et je suis mariée et je suis séparée avec mon mari depuis déjà plus de 2 ans.
Séparée ou divorcée?
Séparée, pas encore divorcée. Parce que monsieur ne veut pas divorcer, mais ici, ça c'est un autre problème. Et il se trouve que moi j'ai des enfants d'un premier mariage et ma question. Dans le cas où, par exemple, moi je décède parce qu'il meurt, ça peut arriver à n'importe qui, personne ne gère son destin. Alors, par rapport à cet héritage-là, comment ça se passe?
Alors, il faut savoir que, bien entendu, la première des choses que l'on va faire, c'est tout simplement définir les héritiers. Qui sont les héritiers? Donc, votre mari qui n'est pas divorcé de vous est un héritier, il a le droit à un quart de tout le bien. Même tant que le divorce n'est pas prononcé par l'État, par la juridiction, que ça soit algérienne ou française, votre mari est toujours héritier. Religieusement parlant, alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si le mari a fait une déclaration de talaq, il vous a dit anti talaq. Normalement, il doit lui devant le notaire. Il devra reconnaître qu'il a bien répudié sa femme et qu'il n'a droit à rien. Il n'a pas droit à ce quart d'héritage. Donc, c'est en son âme et conscience de dire, voilà, moi je n'ai pas droit puisque j'ai répudié ma femme. Donc, elle n'est plus ma femme depuis 3 mois après ce qu'on appelle la période de viduité qui succède à ma déclaration de talaq, de répudiation. Donc, à partir de là, votre mari ne devrait pas toucher. Sauf que d'un point de vue administratif et judiciaire, tant que le divorce n'est pas prononcé, il est toujours votre mari. Donc, il va vouloir toucher une part, son quart d'héritage de la totalité de votre bien, bien sûr, je parle. Mais bien sûr, en son âme et conscience, il doit savoir que c'est un voleur en faisant cela. Il vole ses propres enfants ou les enfants de sa femme.
Je ne vous cache pas que cette option, elle est très probable.
Eh bien, écoutez, à vous de maintenant d'accélérer le processus de divorce pour que vous puissiez avoir un divorce prononcé rapidement et que de cette manière-là, votre ex-mari disparaisse de la liste des héritiers. Ensuite, vos enfants, que ça soit d'un mari précédent ou d'un nouveau mari, ils sont héritiers à part égale. D'accord?
Comme garçon.
Non. Je vous dis, c'est-à-dire que ça soit d'un premier mariage ou d'un deuxième mari, il n'y a pas de différence entre la différence des pères. C'est pas parce que eux sont issus d'un premier mari qu'ils vont toucher plus que ceux qui sont issus d'un deuxième mari. Maintenant, après, en tant que frère et sœur, la règle islamique, c'est que les garçons touchent deux parts par rapport aux filles. Avec, bien entendu, une obligation de prise en charge des sœurs non mariées par les frères. Si les frères refusent de prendre en charge leurs sœurs non mariées, le juge peut décider de confisquer une partie de l'héritage pour prendre en charge la sœur qui n'est pas mariée, qui n'a pas de moyens de subvenir à ses besoins, n'a pas de logement, etc. Donc les frères devront se mobiliser, et s'ils refusent, c'est au juge de faire le nécessaire en confisquant une part d'héritage pour prendre en charge la sœur. Donc je répète que c'est vrai que l'islam accorde deux fois plus de parts aux garçons qu'aux filles, mais en contrepartie, il impose aux garçons de prendre en charge les sœurs qui ne sont pas mariées. Puisque celles qui sont mariées sont prises en charge par leur mari, mais celles qui ne sont pas mariées et qui ont perdu leur père, donc parce que le père est décédé, donc il y a un héritage du père, eh bien ce sont les frères et aussi la part d'héritage de leur frère qui pourra être utilisée par le juge, et en le confisquant, pour prendre en charge les besoins de la sœur non mariée. D'accord. L'important, c'est que finalement aucune personne ne soit lésée. Hein, les filles ne doivent pas être lésées. Il ne s'agit pas simplement d'avantager les garçons gratuitement. Hein, c'est pas un avantage que Dieu fait en disant voilà, on est dans une démarche phallocrate, patriarcale ou misogyne, où est-ce qu'on la femme n'a aucune valeur. Au contraire, l'islam au contraire va accorder encore plus d'avantages, parce que je vais vous donner un exemple. Le garçon, il va revendiquer le droit coranique. Il va dire, moi j'ai le droit au double de la part de ma sœur. Mon père est mort, il y a moi et ma sœur. Ma sœur n'est pas mariée. D'accord ? Moi j'ai le droit à deux tiers, et ma sœur a le droit à un tiers. C'est, on applique la règle. Sauf que le juge va dire, mais maintenant que ta sœur est toute seule, et que tu as vendu la maison de papa, et tu as pris deux tiers, elle va où ta sœur ? Où est-ce qu'on dira ? Où est-ce qu'on dira ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Le garçon, il va dire quoi ? Le monsieur, le fils. Il va dire, bah, moi j'ai une femme et des enfants, je peux pas prendre en charge ma sœur. Ah bon, tu peux pas prendre en charge ta sœur ? Si justement l'islam t'a accordé plus de parts par rapport à ta sœur, c'est parce que Dieu va t'imposer en tant qu'homme de prendre en charge ces femmes qui sont dépourvues de moyens. Donc, à partir de là, le juge peut décider de confisquer ce fameux surplus qu'il aurait touché, par exemple entre 2 tiers et 50%, c'est-à-dire il y a 17% environ, 16,6%, il peut le récupérer, le juge, et dire voilà, normalement ça aurait été moitié-moitié si tu assumais tes obligations envers ta sœur, mais comme tu ne veux pas les assumer, eh bien c'est 16,7% qui font la différence entre ta part de moitié-moitié et ta part de 2 tiers, 1 tiers, hein, la différence entre les deux, eh bien, nous allons nous les consacrer à prendre en charge les besoins matériels de ta sœur. Voilà, c'est une décision que peut prendre un juge et qui va, bien entendu, être juste pour appliquer la visée de la loi. Puisque si Dieu a accordé plus de droits aux hommes, c'est parce qu'il leur a imposé plus de devoirs. Mais qu'on prenne ce qui nous intéresse du Coran, on prend ce qui du Coran nous intéresse, c'est-à-dire les droits qui nous donnent deux parts de plus qu'aux femmes. Et puis quand il s'agit d'assumer des devoirs, il n'y a plus personne. Et il dit, il n'y a plus le Coran, il n'y a que la loi. Et bien là, nous disons, non, stop, ce n'est pas normal. Donc soit tu appliques tout, tu appliques rien.
Par contre, si par exemple moi, je décide de partager les biens à part égale pour les quatre, sachant que c'est pas, le garçon est le dernier, et les trois sœurs, c'est les plus grandes.
Alors, madame, c'est pas à vous de décider à la place de vos sœurs. Vous avez le droit de vous destituer de vos droits, mais c'est à vos sœurs de décider pour elles leur part si elles veulent, ou plutôt aux frères.
Mais monsieur, moi, j'ai pas de sœurs. Moi, je parle, c'est mes biens à moi personnel. J'ai mes quatre enfants.
Ouais. Ah, vous parlez de vous pour vos enfants, d'accord. Vous pouvez le faire de votre vivant. C'est-à-dire, vous pouvez faire le partage effectif. Un partage effectif. C'est-à-dire, vous transférez réellement ce que vous avez à vos enfants par une donation, c'est-à-dire vous leur donnez directement par transfert,
et ça, non c'est pas. Juridiquement. Ça, c'est
je vous parle de la loi coranique, je vous parle de la loi religieuse. D'accord. Je vous parle de la loi religieuse. La loi religieuse vous dit, si vous voulez faire un don, vous le faites de votre vivant, et il faut que ce don soit effectif et non pas testamentaire. C'est-à-dire, il faut pas que vous fassiez un papier en disant, moi, quand je veux mourir, le jour où je vais mourir, je veux que tous mes enfants ils touchent une part égale. Ça, vous pouvez pas faire ça. Puisque le Coran, le hadith est clair, la wasiyata li warith. Il ne peut pas y avoir de testament concernant les héritiers qui ont déjà une part définie dans le Coran. La wasiyata li warithin awrathahu Allah azza wa jalla fi al-Quran al-Karim nasib. Yani que le Coran a accordé une part déjà dans le Coran, et toi tu viens changer la décision divine du Coran. On peut pas faire ça. Par contre, un testament qui ne concerne pas un héritier, par exemple un petit-fils ou un oncle ou une tante que vous aimiez, vous avez envie de leur donner une part de votre héritage par testament, vous avez le droit de le faire, puisque eux ne sont pas héritiers. Ils ne sont pas, ils n'ont pas de part d'héritage normalement. Ou un cousin, ou un oncle, ou tout simplement un orphelinat, ou une personne lambda. Vous voulez à votre mort lui léguer par testament une part de votre héritage. Eh bien, il est plafonné à un tiers. Vous ne pouvez pas faire ce don-là de plus supérieur à un tiers. Un tiers de la totalité de l'héritage. Et le prophète a même dit وَثُلُثُ كَثِيرٌ, hein, que le cas et un tiers, c'est déjà beaucoup. Donc, faire un testament, c'est bien, on peut faire ça. On peut, par exemple, léguer après sa mort à un orphelinat ou à une association caritative ou une mosquée pour construire, etc. Bref, on peut, mais ça ne doit pas dépasser un tiers de la totalité de l'héritage. Et je répète, le prophète a dit que déjà un tiers, c'est beaucoup. وَثُلُثُ كَثِيرٌ, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, à partir de là, vos enfants, vous pouvez leur donner de votre vivant, vous leur donnez de votre vivant avec transfert. Par exemple, si vous donnez à un de vos enfants une maison, eh bien, vous devez que ça soit inscrit au niveau notarié, qu'il ait maintenant la propriété. Mais s'il n'est pas inscrit à votre mort, c'est toujours à votre nom, eh bien non, ça fait partie de l'héritage. Et là, c'est les règles coraniques qui s'appliquent.
Voilà, Najed, ce qu'on pouvait dire. D'autres questions qui concernent l'héritage. Dans un instant, Imam Abdelali, je rappelle que vous pouvez composer le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de l'islam au présent. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
On parle d'héritage ce matin, Imam Abdelali. On changera de sujet la semaine prochaine, mais ou peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de questions.
Ouais, non, je pense qu'on va peut-être rester sur ce sujet encore au moins une séance. Au moins une, si c'est
bon,
pas deux.
Mais c'est vrai que si vous avez des questions, vous posez votre question et l'imam l'élargit pour que la réponse puisse permettre de profiter à tout le monde, en fait. Alors, on a... il faut que tu m'aides. Maître Boli, aidez-moi. Le prénom... Ekel. Alors, Ekel, bienvenue.
Salam alaikum, bonjour.
Wa alaikum salam. Ekel, c'est ça?
Haikel, ouais, c'est ça.
Ah, Haikel, d'accord.
Exactement.
D'accord.
Ah, j'avais une question, du coup, sur les biens immobiliers. Oui. Si, exemple, le père décède et qu'il a, du coup, des biens dont sa résidence principale et des terres au bled, est-ce que, du coup, la famille hérite de ces terres-là? Comment elles héritent de ces terres-là? Et est-ce qu'elles héritent aussi de son bien principal?
Alors, quand tu dis bien, c'est-à-dire la maison principale, je veux dire?
La maison principale où la famille vit avec la mère et les enfants.
D'accord. Alors, la mère et les enfants, ce sont eux les héritiers. On est bien d'accord?
D'accord, mais si, exemple, puisque tu disais que la grand-mère hérite de 1/6, par exemple.
Oui.
Et si elle est encore vivante, est-ce que du coup elle hérite de
Bien sûr. La mère du défunt, puisqu'elle est la mère du défunt, on est bien d'accord, a le droit à son 6e. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire, elle devra attendre la vieille Skakamer ou je sais pas quoi pour qu'elle puisse toucher son 6e. Elle vient de perdre son fils. C'est déjà une douleur énorme pour elle de perdre son fils. En plus, elle perd même l'héritage de son fils. Il est inadmissible qu'une grand-mère soit déshéritée sous prétexte qu'elle est âgée ou je ne sais quoi. Elle a le droit à son héritage, même si elle est comment ils appellent ça, les personnes qui sont un petit peu
c'est la Alzheimer
ou vénile, quoi, qui ont
sénile,
voilà, c'est ça, on dit sénile.
Non, vous me faites un geste, alors il faut que j'interprète ce que vous me dites.
Sénile, oui. Alors sénile, voilà, c'est sénile, qui ont déjà perdu la moitié de leur cerveau, leur raison.
C'est-à-dire qu'elle hérite même si elle est
tant qu'elle est vivante, tant qu'elle a le cœur qui bat, elle est héritière du bien de son fils. Donc vous devez, d'accord, bien entendu, lui accorder immédiatement son 6e. Et son mari, s'il est vivant, c'est-à-dire le père du défunt, a lui aussi droit à un 6e. Et concernant la maison... Attendez. Ce qu'il faut faire d'abord... Alors, il faut respecter une procédure. Vous devez d'abord définir ce qu'est l'héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce que lègue le défunt? Le défunt, la personne qui est morte, qu'est-ce qui est à lui au moment de sa mort? Qu'est-ce qui est à lui? D'accord? Ensuite, quand on a défini ce qui est à lui, c'est-à-dire tous les biens, maison, terrain, argent, or, peu importe, définir d'abord ce qui est à lui. Ensuite, définir la valeur de chaque chose qui lui appartient au moment de sa mort. On définit sa valeur. Ensuite, on essaye de voir s'il est possible de partager en nature. C'est-à-dire, on va essayer de voir si on peut, par exemple, je donne un exemple. Il y a plusieurs maisons. Il y a le père, par exemple, le fameux grand-père, la Chibani, qui est vivant encore, qui vient de de vivre le malheur de la mort de son fils, qui a le droit à un sixième, lui et sa femme. Et lui et sa femme ont droit à l'équivalent d'un tiers. Et il y a une maison qui vaut un tiers de l'héritage, de la totalité de l'héritage. Eh bien, on peut tout simplement décider de lui, de mettre au nom des deux parents, cette maison qui correspond à un tiers, c'est-à-dire deux fois un sixième égale un tiers. Donc un tiers, on donne aux deux parents. Et on va, voilà, on leur dit, c'est bon, vous avez pris en nature ce qui vous est dû. Si par contre, c'est pas possible, les calculs font que par rapport à l'estimation des biens, on ne peut pas procéder à un partage en nature. Eh bien, on doit vendre les biens en évitant de vendre la maison principale où habitent les enfants, s'ils sont encore en bas âge en plus, avec leur maman. On essaye de vendre le reste pour que, tout simplement, les ayants droit puissent prendre leur part et éviter de vendre la maison principale où habitent les enfants. Si c'est pas possible, à ce moment-là, on demandera à la maman et aux enfants qui vivent dans la maison de faire une reconnaissance de dette en disant que voilà, nous devons à nos grands-parents, et la maman à ses beaux-parents, c'est-à-dire la maman c'est la femme de leur fils, donc elle va reconnaître qu'elle doit de l'argent aux grands-parents, c'est-à-dire l'équivalent d'un tiers. Et s'il y a de l'argent ou s'il y a de l'or, ben c'est bien entendu les grands-parents qui récupèrent pour avoir leur part, et eux bien entendu pourront grâce à cela garder la maison principale. En fin de compte, c'est au cas par cas. Il faut d'abord étudier le legs, ensuite l'estimation du legs, la faisabilité du partage en nature, sinon la vente, et ensuite chacun part avec sa part de manière respectueuse des préceptes du Coran et de la Sunna. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ?
Oh oui, c'était très clair. Barakallahu
fik. Fikil barak. Voilà.
Bien, merci pour votre appel. C'est toujours technique. Hein. Merci. Alors on merci a.
J'espère d'être clair. Tu vois, j'essaie d'être.
Mina qui est avec nous au 01 53 48 3000. Mina, bienvenue. Oui. Alors, c'est à vous ou pas. Alors, on va prendre Noara. Noara.
Noara. Ça veut dire la fleur.
Noara.
Noara.
Ah, bonjour.
Salam alaikum. Noara, c'est ça.
Ah, Noara, ouais.
Noara, c'est la fleur. C'est en dialecte, hein, c'est pas en arabe littéraire.
Voilà.
Parce qu'en arabe littéraire, la fleur, c'est Zahra.
Zahra. Kif, kif.
Non.
Assalamu alaikum. Je parle en cabine ou en arabe?
En français.
En français, un petit peu. Nous, on a l'héritier. Il y en a beaucoup de familles. Beaucoup. On est au moins 20.
Bah, qui hérite de qui? Du grand-père?
Grand-père, oui. Mmh. Mais tout le monde ne veut pas faire la signature.
D'accord.
Elle est restée comme ça.
Ouais, je sais. Parce que comme l'État, lui, ne touche pas de droit de taxe d'héritage, ne taxe pas l'héritage, eh bien, elle dit aux citoyens algériens, débrouillez-vous, d'abrouskom.
Voilà.
Alors, tu as des milliers de biens concernés par l'héritage qui restent la propriété des morts, Philippe. En Algérie, il y a une grande majorité de terrains qui appartient à des morts parce que les héritiers n'ont pas su, on n'a pas su se mettre d'accord pour qu'on puisse aller devant un notaire et se soumettre à la volonté de la loi du pays qui est l'État algérien et voilà et notamment c'est la loi coranique qui s'applique en Algérie.
Parce que les cousins, ils veulent pas faire la signature.
Oui. C'est ça. Oui, parce qu'ils sont déjà dessus, ils jouent sur le fait accompli, ils disent « Rana fiha ». Et si on signe, ça veut dire on va perdre ce que l'on a là. Parce que Houma gardait le terrain. Oh là là, c'est eux qui sont sur le terrain et qui l'exploitent.
Ouais, c'est pas les terrains, il y a les magasins.
Voilà, il y a les magasins. Alors, il y a des magasins qu'ils exploitent eux-mêmes, donc ils font de l'argent sur des magasins. Et ils font même des locations, c'est-à-dire ils récupèrent de l'argent des locations. Ce qui complique, Philippe, encore plus les choses. Parce qu'imagine, une personne décède, elle lègue derrière lui des magasins. La location des magasins, parce que les magasins sont loués à des commerçants, et qui fait rentrer de l'argent tous les mois, Donc cet argent-là qui rentre tous les mois, il appartient à qui? Ben il appartient aussi aux héritiers.
Ouais.
Donc finalement, tu te retrouves avec quand t'as 10 ans qui sont passés ou 15 ans qui sont passés, où des commerçants ont versé des loyers à un des héritiers, donc qui lui a touché, bien entendu. Comment tu vas gérer, Philippe? Ça devient extrêmement compliqué, puisqu'on a à la fois l'héritage et l'usufruit de l'héritage. T'as les gains acquis par l'héritage. Imaginons aussi des terrains agricoles qui vont rapporter Alors, t'as à la fois le gars qui a investi des tracteurs, de l'eau, chez d'irrigation, tout ça. Donc, lui, il a mis de l'argent pour que ce terrain soit fructueux, pour qu'il apporte une récolte. Et de l'autre côté, t'as le terrain qui ne lui appartient pas et qui appartient aux héritiers, dont lui fait partie. Comment refaire le partage, le calcul, pour que chacun reparte content et qui... alors que ça fait déjà 15 ans que le gars il exploite le terrain et qu'il profite du terrain sans en accorder quelconque avantage aux autres membres héritiers. Donc c'est très compliqué, je vous l'accorde madame, hein, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Noara n'a pas mis à jour sa sonnerie de téléphone.
Alors madame, ce qu'il faut faire dans un premier temps, commencer par parler non pas de l'usufruit, c'est-à-dire les gains acquis par les biens, mais les biens eux-mêmes. Donc commençons par les biens. Et faire une estimation de savoir qui a droit à quoi.
Ouais.
Commencer par la définition de l'héritage, de l'estimation de l'héritage, et de savoir qui sont les héritiers de cet héritage, qui ont droit à cet héritage, et quelle part chacun a le droit, et ensuite procéder au partage.
Mais
ensuite,
c'est à qui de faire ça?
C'est au notaire.
D'accord. Donc
lui, il va récupérer les livrets de famille, il va récupérer, etc., tout ce qui concerne toutes les personnes qui entourent le défunt. Il a des parents vivants ou pas? S'il a des enfants, combien il en a d'enfants? Parmi eux, il y en a qui sont morts, qui ont laissé des petits-enfants. Et donc là, il y a encore une divergence entre les servants. Est-ce que les petits-enfants d'un fils décédé ont droit à la part de leur père? Eh ben, la plupart des servants disent non, d'autres disent oui. Et en Algérie, il y a ce qu'on appelle... le testament obligatoire qui est ce qu'on appelle virtuel et qui est effectif parce que on considère que les petits enfants qui ont perdu leur père ne peuvent pas, en plus de perdre leur père, perdre la part de leur père de l'héritage de leur grand-père, et donc on va accorder la part du fils au petit-fils, parce que le fils est décédé. Donc c'est compliqué. J'espère que les auditeurs comprennent bien ce que je dis. J'espère que voilà, vous avez un grand-père qui est décédé, sauf que son fils est mort avant lui. Ben normalement, les petits-enfants de ce monsieur qui meurt après, le grand-père, eh bien ne peuvent pas hériter de leur grand-père parce que tout simplement il a des enfants, c'est-à-dire les oncles. Les petits-enfants ont des oncles, ils ont des oncles qui sont les héritiers. En présence d'enfants, les petits-enfants sont déshérités, c'est ça que je veux dire.
On reviendra sur le sujet la semaine prochaine, si vous voulez bien.
Ouais, la semaine prochaine,
on n'a pas pu prendre tout le monde au standard.
Et en plus, il y a encore des questions qu'on a préparées, qu'il faudra
du temps. Imam Abdelali, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Passez un très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.